Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
La France a été aux côtés d'Israël et sous coordination américaine avec nos amis britanniques. Donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, et puis retrouver un chemin de paix dans la région. C'est aussi pour cela que nous appelons à la prudence sur Rafah et que nous avons demandé une trêve conduisant au cessez-le-feu pour pouvoir procéder aux opérations humanitaires.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
On vient d'entendre Emmanuel Macron, c'était lundi dernier après les frappes de l'Iran sur Israël. La semaine diplomatique a été très intense. Est-ce que dans un tel conflit, la diplomatie, les mots, l'embrasement, la désescalade ont encore un sens, une force après ce qu'on vient de vivre, notamment en fin de semaine?
Oui, évidemment oui. Ça ne veut pas dire que je crois qu'il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé.
Oui.
Au sens où ça fait maintenant 45 ans depuis la révolution islamique que le régime des Mollahs veut détruire Israël, que les tensions progressent et que les tensions progressent d'autant plus que le régime iranien se rapproche du seuil nucléaire, mais un pas supplémentaire a été franchi. Et ce qui me frappe, c'est que c'est à la fois une action inédite et que le paradoxe est que la réaction dans la rue israélienne est assez banalisée.
Oui, on a parlé de grand silence, d'assez peu de réactions en fait.
Alors, l'action est inédite, elle est même en réalité doublement inédite. Inédite du point de vue du côté israélien, puisqu'il y a régulièrement des opérations ciblées d'élimination des gardiens de la révolution. Il y en a eu, y compris récemment, avec la mort du général qui était en charge des actions au Liban, en Syrie et à Gaza. Mais c'est la première fois qu'il y a une action dans un consulat iranien. Inédite aussi du côté de l'Iran, parce que un peu symétriquement, l'Iran, la République islamique, agissait par tiers interposés.
Le Hamas, les fameux proxys.
Les Houthis. Mais c'est la première fois qu'il y a une opération militaire depuis le territoire iranien. Et donc le paradoxe, c'est que cette action inédite provoque une réception assez banalisée dans la rue israélienne. Autant le 7 octobre a été un traumatisme profond, autant le 13 avril prend sa place dans une continuité. Et je crois que c'est intéressant de s'interroger pourquoi. En fait, je pense que c'est parce que le procédé est plus important que l'origine. Ça veut dire quoi? Le 13 avril, l'origine, l'Iran, est la nouveauté. En revanche, le procédé, les bombardements, s'inscrit dans une continuité. À l'inverse, le 7 octobre, l'origine, le Hamas, il y a une habitude. En revanche, le procédé, l'incursion, le pogrom sur le territoire israélien, ça, c'est la nouveauté.
Et puis le résultat, le bilan.
Et évidemment.
Le bilan, c'est aussi évidemment très différent.
Alors, évidemment le bilan, alors je termine peut-être là-dessus, c'est évidemment aussi un cuisant échec opérationnel. On pourra discuter après de l'effet politique, mais c'est un cuisant échec opérationnel. On peut avoir un débat sur ce que la République islamique voulait vraiment faire. C'est-à-dire, d'un côté, il y a ces 300 drones, missiles, et d'un autre côté, des cibles militaires, des drones qui mettent 6 heures pour atteindre le territoire israélien en passant par la Jordanie. Il y a cette interrogation, est-ce que c'était une riposte à minima? Et d'un autre côté, il y a sur ce sur quoi je crois il peut pas y avoir de débat, c'est sur ce que la République islamique a vraiment fait, c'est-à-dire d'un point de vue opérationnel, rien. Et je termine par là. C'est frappant de voir l'efficacité des services secrets américains une nouvelle fois après l'alerte sur l'invasion de l'Ukraine.
Absolument.
De voir l'efficacité de la coordination dont parlait le président de la République sur le territoire jordanien et de l'efficacité du dôme de fer israélien.
Et je précise que l'efficacité américaine, maintenant, on la mesure parce que désormais c'est public. C'est-à-dire que c'est les Américains qui publiquement disent l'Ukraine va être envahie dans quelques jours par la Russie. Iran va attaquer dans quelques heures ou dans quelques jours Israël. Peut-être ça, la nouveauté, c'est de le dire.
Ils disent quoi? Ils disent quand? Ils le disent, ils disent quoi? Ils disent quand?
Il y a eu la réaction d'Israël, ça reste encore assez trouble, mais est-ce qu'on peut dire, Natacha, que d'une certaine manière, Israël sort vainqueur de cette semaine-là, parce que sort peut-être de son isolement? On a entendu Emmanuel Macron dire qu'il est intervenu aux côtés d'Israël pour défendre Israël, alors qu'on sentait que la position israélienne était de plus en plus affaiblie et isolée depuis quelques semaines.
C'est tout le paradoxe et toute la complexité de la situation. C'est-à-dire que on est pour l'instant dans une semaine, on va voir ce que vont donner les suites, mais on a eu l'impression d'avoir deux régimes, Israël et l'Iran, qui pouvaient proclamer vis-à-vis de leur population que c'était une victoire. Que ça se passait correctement, qu'il n'y avait rien de grave, et qui, en même temps, jouait une forme de retenue, tout en disant qu'il y aurait des ripostes, tout en alignant les rodomontades habituelles, mais tout de même une forme de retenue assez frappante. Le début de la séquence, c'est là aussi une autre nouveauté, c'est Israël le 1er avril frappant l'ambassade d'Iran à Damas. C'est-à-dire que c'est là
le consulat.
Le consulat. C'est là que commence ce début de déplacement d'un conflit qui, depuis le 7 octobre, se passait ailleurs et se passait par proxy interposé. Ça arrange, pour l'instant, les deux régimes. Et c'est ça qui me semble assez frappant. On a un régime iranien qui est extrêmement affaibli par une crise économique, par une remise en cause, surtout à travers les manifestations d'une jeunesse qui est d'un courage et d'une constance admirables depuis le début des mouvements Femmes, Vie, Liberté. On a donc un régime qui a besoin de se ressouder. Et on a en face un Benjamin Netanyahou qui a besoin de se maintenir au pouvoir, qui est confronté à une opération militaire à Gaza qui est dans une phase, semble-t-il, d'enlisement et dont, en tout cas, on ne voit pas bien quelle pourrait être la fin, c'est-à-dire à la fois l'objectif et l'arrêt, et qui donc a besoin de déplacer le problème avec, en effet, cette remarque, c'est que ça aboutit à recréer un semblant de consensus international, même si on a bien vu que les États-Unis restent extrêmement prudents, ont prévenu qu'ils ne soutiendraient pas de frappe notamment sur les infrastructures nucléaires iraniennes. La seule chose que l'on peut espérer face à une situation qui semble à la fois une situation de retenue et une situation quand même éminemment inflammable, c'est le fait que les pays arabes autour, qui se retrouvent pieds et poings liés, poussent largement en faveur d'un apaisement. On peut espérer que des pays comme la Turquie puissent jouer là aussi les pivots et une force d'apaisement et de diplomatie, puisque paradoxalement la position de la Turquie a été là aussi extrêmement retenue, extrêmement mesurée et se permettant en fait de pouvoir parler aux deux parties. Et on peut donc ne souhaiter qu'une chose, c'est que cet épisode-là soit un préalable à une entreprise véritablement diplomatique, puisque pour l'instant, on était face à des absurdités diplomatiques telles que celle de Donald Trump déchirant l'accord nucléaire, des positions qui étaient des positions assez irresponsables. Cette fois-ci, tout le monde a intérêt au calme.
Gilles ?
Natacha disait les deux pays, à la fois Israël et la République islamique, pouvaient crier victoire. Du point de vue militaire, seul Israël pouvait le faire. Du point de vue politique... Là, les choses sont plus complexes, c'est ce par quoi je terminais. Ce qui est sûr, c'est que l'Iran peut-être espérer avoir gagné auprès de la rue arabe. En revanche, il y a un isolement diplomatique qui est plus fort.
Et y compris avec d'autres pays arabes de la région.
Voilà, et c'est ce par quoi je voulais terminer, parce que au-delà de la Turquie, je trouve que c'est pas le premier grand sujet, grand dossier de politique internationale sur lequel ça se passe. Je trouve que les pays du Golfe prennent maintenant une place de plus en plus stratégique. Et que, d'une certaine manière, il y a deux scénarios possibles pour les pays du Golfe. Soit rester des tiers d'influence, un peu comme le Qatar a commencé de le faire dans les négociations avec le Hamas à Gaza et avec Israël. Voilà, l'Arabie Saoudite peut tenter de faire ça. Après, on s'en souvient, il y a quelques mois, avoir signé un accord de détente avec l'Iran. L'autre scénario, c'est celui de ce que Elie Barnavi, dans Le Monde de cette semaine, a appelé une coalition diplomatique. Je le cite parce que la peur des Perses serait plus lourde que la haine des Juifs. Mmh. Et pour ça, ça renvoie à la question qui a été évoquée, celle de la retenue du gouvernement israélien, à la fois par rapport à l'Iran et puis par rapport à Gaza.
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, on revient en France avec l'annonce d'un salaire qui a fait grand bruit, celui de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, qui détient notamment Peugeot, Opel, Fiat ou Chrysler. Cette semaine, l'Assemblée Générale du groupe automobile a validé sa rémunération de plus de 36 millions d'euros pour l'année 2023, entraînant un débat politique et la grogne chez les salariés de Stellantis. Carlos Tavares a pris la parole droit dans ses bottes.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise, 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Faites une loi. Est-ce que Gilles, c'est poujadiste de s'en prendre à cette rémunération? Gilles Natacha, tiens. Gilles, me regardez, qui préférait répondre?
Non, bon, on va répondre tous les deux, ouais. Bien entendu. Mais ces 36,5 millions ont fait réagir jusqu'à Gabriel Attal, qui a été interrogé et qui a été obligé de dire à quel point il trouvait ça choquant.
Des sommes choquantes.
Voilà, des sommes choquantes. Il est vrai que la somme en elle-même, c'est 518 fois la moyenne, le salaire moyen du groupe, ça fait beaucoup. Et que c'est très intéressant, puisque ressurgit régulièrement cette proposition de limiter le salaire des dirigeants d'entreprise à 20 fois le salaire moyen du groupe. Il y a d'ailleurs une proposition portée notamment par Boris Vallot qui irait dans ce sens. Et on peut comprendre tout à fait cette proposition, 20 fois, même 30 fois, ce serait quelque chose de raisonnable, qui correspondrait à la décence commune, comme l'a dit Boris Vallot, puisqu'il reprend les termes de George Orwell. À ceci près qu'on peut se poser plusieurs questions. D'abord, la réponse de Carlos Tavares, consistant à dire « mais c'est un contrat, c'est une entreprise privée, etc. » Et de fait, vous pouvez aussi vous dire que justement, dans ce genre de contrat, si vous limitez la rémunération du dirigeant, où va l'argent ? Mais il ne va pas être donné aux salariés, et c'est bien le problème. Ce sera cela de moins que les actionnaires auront dans leurs dividendes. On pourrait donc se dire que peut-être la meilleure manière ne serait pas de limiter le salaire, mais de taxer le salaire correctement. On se souvient qu'après la crise des subprimes, Barack Obama, en 2009, avait imposé la prime des dirigeants de l'assureur AIG, il l'avait taxé à 90%.
Il faut dire qu'AIG avait été sauvé par l'État, ce qui n'est pas le cas de Stellantis quand même.
Non,
donc,
mais,
avec mais un côté, je suis on vous d'accord. A donné beaucoup,
alors,
donc vous
j'allais y venir. En effet, entre en ligne de compte les différentes aides que l'État, sous différentes formes, donne à ses entreprises. Et c'est là qu'il faut mettre en place un véritable donnant-donnant. J'ajoute un dernier point qui me semble important. À Marianne, nous avons publié l'an dernier, à l'occasion du Salon du Made in France, nous avons créé un observatoire du patriotisme économique. Avec des chiffres, on a observé toutes les entreprises du CAC 40 en regardant l'évolution de leurs effectifs sur les 10 dernières années. En se posant la question, très bien, ces groupes sont des groupes mondialisés, mais ils ont une part de leur activité en France et une part ailleurs. Comment est-ce que ça évolue? Eh bien, Stellantis était dernier dans ce classement de 40 entreprises, avec un effectif en France qui, en 2022, donc, restait à 46 300 postes. Donc, une part de 17% seulement de ces effectifs totaux, avec une évolution depuis 2012 de moins 47 979 poste. Ça veut dire qu'en fait, Stellantis délocalise massivement. Et ce qui était très intéressant dans les chiffres qui ressortaient de cet observatoire, c'est que les mieux classés, ceux qui créaient de l'emploi en France, qui le respectaient, étaient des entreprises comme Hermès, même comme LVMH, c'est-à-dire qu'en fait, dans le luxe, on arrive à produire en France, à peu près. En revanche, automobile, Stellantis, équipementier automobile, etc., Michelin, etc., étaient tous très mal classés. Pourquoi ? Parce que le problème vient de la notion qu'on a de la concurrence. Et que donc, ce qui est choquant dans ce système économique, c'est quoi ? C'est un système de libre concurrence généralisée qui, évidemment, incite à délocaliser, à détruire des emplois, à aller se mettre ailleurs. Et d'ailleurs, Carlos Tavares, lors de différentes interviews, l'avait dit clairement. Moi, je ne suis pas responsable. Vous n'avez qu'à arrêter de me mettre en concurrence avec des gens qui peuvent fabriquer moins cher, avec des voitures chinoises. Et dans un sens, c'est d'un cynisme absolu, mais il n'a pas tort. Sauf que le problème derrière est en effet que ce système donne la totale liberté, évidemment, de ne payer que le dirigeant, mais pendant ce temps-là, de délocaliser allègrement.
Gilles, c'est régulièrement qu'on a ces débats. Chaque année, on a les chiffres impressionnants. Et pourtant, le débat n'avance pas. Est-ce que ça veut dire que il y a là quelque chose qui résiste de l'ordre du tabou? Ou parce que finalement, on est dans un monde mondialisé et que Carlos Tavares dit qu'il est comme un joueur de foot et que donc la concurrence, elle lui profite pour le coup, y compris pour délocaliser et y compris pour son salaire?
Alors, je trouve dans ce dossier, il y a ce dont on a trop parlé, qui est la rémunération.
Oui.
Je vais y venir. Et ce dont on a trop peu parlé, ce par quoi je vais terminer. Sur la rémunération, vous avez raison, c'est chaque année, depuis 2016, c'est un marronnier, comme les comptes les bénéfices de Total. On a chaque année ce débat-là qui revient et on voit ce chiffre, 36,5, ça crée la fièvre. Bon. Et je crois que c'est ni populiste, ni le réflexe poujadiste, ni le réflexe d'une vieille gauche égalitariste de dire que c'est trop. C'est trop d'ailleurs, y compris par rapport aux autres grands patrons de l'automobile, où Carlos Tavares va être le patron de l'automobile le mieux payé du monde. Et la référence aux joueurs de foot...
Au talent,
on peut dire la carrière d'un footballeur est plus courte, on peut dire que Kylian Mbappé me fait plus rêver que Carlos Tavares, mais c'est trop aussi. On est dans une période, je trouve, d'excès par rapport à cette décence commune et par rapport à... Je crois que tout ça vient en réalité fragiliser le sentiment d'appartenance commune à une société. Ça vient alimenter l'idée d'une sécession des riches, pour reprendre la formule de Jérôme Fourquet. Vous vous souvenez, j'en avais parlé plusieurs fois ici de ce sondage, cette grande enquête que nous avions faite sur la société idéale. Et une des questions qu'on avait posées était, dans l'idéal, ça serait quoi l'écart de rémunération entre les plus riches et les plus pauvres? Et je regardais ceux qui avaient répondu 1 à 1000, puisque c'est de 1 à 1000 qu'il s'agit, ou pas de limite. Bon, c'est 14% des Français. Donc, évidemment, ça choque massivement. Et, d'une certaine manière, ce que ce débat vient montrer, c'est quelles sont là où se trouvent et où ne se trouvent pas les solutions. La retenue individuelle, on voit que, manifestement, il n'y a pas de limite. La transparence, on voit qu'elle est sans effet, puisque, en l'occurrence, il y a de la transparence. La démocratie actionnariale, elle est sans moyen, puisque même si les actionnaires avaient voté contre, ça n'aurait pas eu d'effet, donc il ne reste que la loi. Bon, je crois, une fois qu'on a dit ça, qu'on a trop parlé de ce sujet, et ce dont on a trop peu parlé, je crois que ce sont deux choses. La distribution des résultats. Il y a eu 18 milliards de bénéfices, près de 5 milliards d'euros de dividendes, et 3 milliards d'euros de rachats d'actions. Je crois que ça, on en a trop peu parlé, parce que c'est typiquement la dérive du capitalisme financier, où vous avez 3 milliards d'euros qui ne servent à rien, à part à augmenter la richesse des actionnaires. Et pire que ça, qui marque un alignement des intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires, puisque ils bénéficient aussi de cette augmentation du cours de l'action. Et la deuxième chose dont on a trop peu parlé, c'est la stratégie industrielle. Je ne parle pas des réussites passées, mais je parle des choix du futur et notamment de l'électrique. Et ce qu'a dit Carlos Tavares, pour le coup, est extrêmement intéressant. Parce que au moment où le marché de la voiture électrique croît moins vite qu'espéré, même s'il résiste plutôt mieux en France. Au moment où Tesla, pour la première fois, annonce une réduction de 10% de ses effectifs. Au moment où il y a un combat de l'extrême droite et de la droite au Parlement européen pour revenir sur le pacte vert et notamment sur ses dispositions, voir que Carlos Tavares, qui a été le plus sceptique sur le choix de l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs en 2035, dit « on ne change plus les règles du jeu ». Je pense que ça, ça a été insuffisamment noté.
Le grand face-à-face, le duel.
Je veux que quand un jeune fait des dégâts, on aille chercher non pas seulement le parent dans le foyer duquel il réside, mais les deux parents. Parce que souvent, quand vous regardez ce qui s'est passé, notamment au moment des émeutes, vous avez des jeunes qui ont dégradé des équipements publics, par exemple. Ils vivent seuls avec leur mère qui est célibataire. Le père est parti parfois depuis un certain temps, ne s'occupe plus de rien. Je souhaite que désormais, et c'est sur ça qu'on va travailler finement dans les semaines qui viennent, désormais, on puisse aller chercher également le père, même s'il est parti depuis très longtemps.
Jeudi soir, Gabriel Attal fêtait ses 100 premiers jours passés à Matignon sur BFM TV et il a beaucoup insisté sur la question de l'autorité. Gilles, cette question de la responsabilisation des parents et du père en particulier, comment vous la comprenez ?
Je trouve quand on écoute Gabriel Attal avant-hier, on a presque les mots de la déclaration de politique générale et de la formule qui avait marqué cette déclaration de politique générale. Donc il y a une continuité de Gabriel Attal Premier ministre, y compris il y a une continuité de Gabriel Attal tout court, puisque quand il était ministre de l'Éducation, c'est sur cette question de l'autorité, et de l'autorité parentale, et de l'autorité des deux parents, qu'il avait inscrit sa marque. Pour les 100 jours,
Gabriel... En même temps, c'est que 100 jours, hein, c'est pas 10 ans, c'est pas non plus... c'est normal que 100 jours après, ils disent la même chose, non ?
Ah, mais c'était pas du... C'est absolument... Ah oui. Non, c'est pas du tout un reproche.
Oui,
au contraire, je montrais la cohérence, pas du tout.
Oui.
Sur les 100 jours, Gabriel Attal a été nommé tôt. Il a été nommé tôt, non pas dans sa carrière, même si il est né en 1989, comme il se plaît à le répéter régulièrement, mais il a été nommé tôt dans le quinquennat. Au sens où il y aurait eu un calendrier logique qui est que Emmanuel Macron garde Elisabeth Borne au moins jusqu'aux européennes, voire jusqu'aux Jeux Olympiques, pour changer de Premier ministre à la rentrée, pour ouvrir une nouvelle séquence. Il a choisi, comme souvent, de bousculer le calendrier et de précipiter la nomination d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Gabriel Attal, pour essayer de sauver la liste Renaissance et, ce faisant, d'éviter d'accentuer son affaiblissement et le basculement du quinquennat vers la prochaine élection présidentielle. Ce qui me frappe, c'est qu'en 3 mois, il y a un cumul de difficultés pour Gabriel Attal, au-delà de la crise agricole inaugurale. Les élections, la campagne européenne avec une tête de liste qui peine, l'indiscipline du gouvernement où, comme souvent après la nomination d'un nouveau Premier ministre, les ministres testent l'autorité du Premier ministre, le contexte économique avec la recherche d'économie, la paralysie parlementaire avec, on l'a vu sur la programmation pluriannuelle de l'énergie ou sur le budget rectificatif, la volonté de contourner le Parlement, et on voit que tout ça crée des risques à la fois de déroute électorale pour la campagne, de cacophonie gouvernementale avec l'indiscipline, d'inquiétude sociale avec la recherche d'économie, d'immobilisme politique avec la paralysie parlementaire, et que tout ça vient fragiliser Gabriel Attal et qu'il est aujourd'hui dans une espèce d'entre-deux. Il conserve des traits d'image positifs, il est potentiellement dans la course pour 2027, mais on sent que les choses commencent à s'éroder et qu'il ne réussit pas et qu'il n'essaye pas de créer une autonomie par rapport au président de la République.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être un petit paradoxe à défendre l'autorité partout et à avoir du mal à l'incarner chez soi ?
Je pense qu'en effet, il y a beaucoup de paradoxes de ce genre. Ce qui me frappe, c'est que, Gilles l'a dit, Gabriel Attal poursuit un sillon. Il a compris que dans une période où, en effet, il est confronté à des difficultés d'ordre divers, la ligne qui consiste à défendre l'autorité était la seule sur laquelle il pouvait se maintenir parce qu'elle parle à son électorat et parce qu'elle trouve un écho dans l'inquiétude des Français, en particulier avec l'accumulation qui est extrêmement frappante ces derniers temps, de faits divers violents, extrêmement violents, et on comprend bien que ça le met dans une position complexe, puisque ça fait partie, ça, évidemment, de sa posture dès le début, et en même temps, ça le confronte à une forme d'impuissance. Alors, les mesures qu'il annonce...
Oui, celle qu'on a entendue là,
voilà,
aller chercher le père même s'il est parti depuis longtemps.
Oui, et puis il y a diverses mesures sur les questions d'éducation, donc maintenir les jeunes dans le collège
de 8h à 18h.
J'ai été frappée, j'ai observé les réactions notamment des syndicats d'enseignants, et je suis toujours frappée par le fait que des gens qui sont des professeurs des syndicats d'enseignants ont l'air de considérer que ça relève du fascisme de maintenir des jeunes dans le collège. Je crois qu'on peut reprocher à Gabriel Attal sa communication, l'excès de communication, l'excès de posture. Mais sur le fond, venir dire, comme certains l'ont dit, qu'il n'y avait dans ses propos que de la répression et pas de prévention, je pense que c'est une absurdité. Car mettre en place... à la fois des sanctions, une présence éducative. Ce n'est pas de la répression, c'est justement de la prévention. Je crois au pouvoir de l'éducation et de la punition très précoce pour permettre l'éducation. En revanche, comme d'habitude, on voit surgir l'artifice de commissions, consultations et autres qui vont encore permettre de gagner du temps parce qu'il ne faudrait pas que ça arrive avant les européennes. On voit encore une fois l'absence totale de moyens précis pour mettre cela en œuvre. Or, tout ce que dit Gabriel Attal sur les places en internat, sur tout ce qu'on veut, je peux être d'accord, mais sans des moyens pour mettre en place cette politique, ça reste une pure opération de communication.
Gilles, oui pour l'esprit, moins pour les moyens ou pour les méthodes. Ce que vient de dire Natacha, comment vous l'entendez-vous ?
D'abord, moi je ne reproche pas à Gabriel Attal sa forte présence politique, médiatique, parlementaire. Je pense qu'il tranche de ce point de vue-là par rapport à Elisabeth Borne, mais que... Il remplit une des dimensions de ce qu'est aujourd'hui la fonction de Premier ministre. En revanche, sur le fond, je trouve que la posture d'autorité est un peu courte et qu'il y a d'autres terrains qu'il n'occupe pas ou qu'il occupe mal. Je pense que sur la question sociale, de manière récurrente, il est sur des positions qui sont très proches de la droite classique, alors qu'il pourrait être sur un champ un peu plus vaste.